Bonsoir. Report de la clôture de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement à Goma. La grande plénière qui devait mettre ensemble le travail des deux grands ateliers Nord et Sud Kivu, ainsi que les tractations faites par le comité des sages n'a pas eu lieu. Aucune raison officielle n'a été donnée quant à la non-tenue de cette plénière. Pourquoi alors ce rapport? Pourquoi ce report plutôt? Peut-on espérer un retour rapide de la paix dans les deux Kivu après cette conférence? C'est le thème de cette émission. Et déjà du côté de nos auditeurs et internautes, ce report suscite quelques interrogations. C'est le cas de Armando de Goma en Nord Kivu. Il pense que cette conférence est une distraction. Au moment où la clôture, il y a affrontement à Rutshuru entre les mêmes groupes. La population doit faire attention aux politiciens. Fin de citation. Pour Alain de Lubumbashi Katanga, il n'y a aucun espoir quant à l'issue positive de cette conférence de Goma. Cela malgré une probable prolongation. Quant à Ogi Ekofo Mboyo de Kinshasa, pour lui, seules des négociations directes entre le général Laurent Nkunda et le président Joseph Kabila peuvent résoudre le problème d'insécurité à l'Est. Nous sommes donc dans ce dialogue entre Congolais avec M. Didier Bitaki, les porte-parole du groupe Mai Mai. Donc, il représente tous les Mai Mai du Nord Kivu, selon lui. Nous avons aussi dans cette émission le professeur François Ayomba Guira, il est député national du RCD, élu de Massissi, et François Elika, notre analyste politique. Donc voilà tout pour les invités.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Report de la clôture de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement à Goma. Pourquoi ce report? Nous apprenons déjà que le comité des sages initie des tractations avec les groupes armés. Mais pour plus de détails, Kelly Kouté a joint Claude Kianza sur place à Goma. On les écoute.
Bonsoir Claude Kianza.
Bonsoir Kelly Kouté.
Claude Kianza, dites-nous pourquoi la plénière prévue pour aujourd'hui n'a pas eu lieu?
Écoutez, aucune raison officielle jusqu'à l'heure. Mais il faut dire que jusque tard dans la soirée de ce lundi, les tractations se poursuivent encore entre les différents groupes armés, dont les Mai Mai du Nord et Sud Kivu, ainsi que le CNDP de Laurent Nkunda, tractation avec le bureau de la conférence, auquel se joint le comité des sages. Le bureau de la conférence élargie donc à celui du comité des sages a proposé aux groupes armés un projet d'acte d'engagement pour une paix durable au Nord et au Sud Kivu. C'est peut-être la raison qui a fait que cette plénière ne puisse pas avoir lieu.
Claude, quel est l'objet des négociations entre le bureau de la conférence et les différents groupes armés?
Ces négociations portent sur un document que le gouvernement congolais a soumis à l'examen des groupes armés avant sa signature. Document important pour l'issue de la conférence et le retour de la paix dans ces deux régions, car il propose quelques voies pour l'instauration d'un cessez-le-feu entre les différents belligérants, le désengagement des troupes des groupes armés et des FRDC, le projet. Fineuse question d'amnistie en faveur des leaders des groupes armés et de leurs combattants. Après l'avoir reçu, les différents groupes armés devraient faire des propositions d'amendement avant de signer ces actes d'engagement.
Et que propose concrètement ce document?
Au sujet du cessez-le-feu, ce projet d'acte d'engagement qui doit en principe être signé à la fin de la conférence demande la cessation immédiate des hostilités dès la signature de cet acte d'engagement. Il demande aussi aux belligérants, y compris les FRDC, de déterminer les zones de désengagement de leurs troupes et les déploiements des observateurs de la MONUC pour surveiller ce cessez-le-feu quant au brassage. Une commission technique sous la facilitation de la communauté internationale sera chargée d'en examiner les modalités. Ainsi, la MONUC devra occuper tous les territoires libérés par le CNDP et les autres groupes armés. Et ces groupes armés devraient, selon ce projet d'acte d'engagement proposé par le gouvernement congolais, participer à la mise en œuvre du plan d'intégration des forces armées de la RDC. Et il faut dire aussi que ce projet d'acte d'engagement compte régler les questions des grades, d'intégration et d'enseignement des démobilisés.
Claude Kianza, qu'en est-il de l'épineuse question de l'amnistie des chefs des groupes armés et leurs combattants?
Le gouvernement précise que cette amnistie n'englobera pas les crimes de guerre et contre l'humanité. Il ne concerne que les faits de guerre et d'insurrection. Le gouvernement s'engage à présenter au Parlement un projet de loi d'amnistie pour faits de guerre et insurrection, justement. Les CNDP se disent satisfaits et même prêts à signer ce texte selon le chef de sa délégation à la conférence sur la paix dans les deux Kivu, M. Tambassou. Quant au Maïma, il voudrait que le leader du CNDP, Laurent Kunda, réponde de ses actes devant la justice, selon les propos de la porte-parole du Parico, qui n'est autre que Madame Sophie Brisa.
Merci, Claude Kanda.
Merci beaucoup, Kevin. Écoutez.
Je dirais d'abord à tous nos auditeurs que nous avons tenté en vain d'avoir un représentant du bureau de la conférence sur la paix à Goma, ainsi que un représentant du CNDP de Laurent Kunda. Ils sont encore tous dans les tractations. Un représentant du CNDP pourra peut-être nous rejoindre au cours de cette émission. Qu'à cela ne tienne, nous avons Didier Bitaki, il est porte-parole du groupe Maïmaï, les Maïmaï du Nord Kivu. Didier Bitaki, est-ce que vous avez adhéré à ce projet d'acte d'engagement que le gouvernement vous a proposé?
Écoutez, monsieur le journaliste, la question que tu me poses est très importante. Je tiens à rappeler que les Maïmaï n'ont jamais rejeté aucun processus pouvant ramener la paix dans la région. Donc, nous avons adhéré totalement à la signature de ce pacte, à condition que le cahier de chef que nous avons remis au comité, au bureau du comité de l'organisation de la conférence soit examiné et que les revendications soient prises en compte. Donc, c'est-à-dire, nous sommes prêts à signer, mais le gouvernement, de son côté, doit nous donner des garanties. Et à côté de cela, il y a les CNDP qui continuent toujours à nous faire la guerre, malgré notre engagement et malgré sa présence, donc sa participation directement à la conférence. Donc, nous avons dit, on doit cesser les hostilités, parce que c'est nous qui étions les premiers à les décréter, je pense, c'était le 6 janvier que nous avons décrété ce cessez-le-feu. Malheureusement, ça a toujours été violé régulièrement par les CNDP, et nous avons appelé aux organisateurs de la conférence que, bien que cet acte d'engagement de cessation des hostilités puisse être signé, nous devons d'abord savoir si réellement l'autre côté, quel est le CNDP, donc notre adversaire, a accepté totalement de cesser à provoquer nos positions afin que nous puissions tous évoluer dans les mêmes sens. Et je pense nous n'avons pas refusé, nous sommes prêts à signer, mais le gouvernement et le CNDP doivent respecter, prendre leurs responsabilités quant au retour de la paix dans la région.
Oui, mais vous parlez des garanties que le gouvernement doit vous offrir. Quelles garanties?
Je pense que notre cahier de charges est un peu clair, et d'ailleurs votre journaliste Claude Kanda vient de vous le rappeler tout de suite. Donc ici même nous sommes en train d'amender le texte donc de l'accord, du pacte que nous devons conclure afin de nous engager définitivement pour la paix. Je suis même à l'hôtel Caribou, je viens de sortir de la salle tout de suite pour répondre à l'invitation de la radio Capimé. Notre cahier de charges est clair. Nous avons dit, nous n'avons jamais fait la guerre contre quelqu'un. Nous n'avons jamais franchi la frontière, mais encore provoqué soit un groupe d'hommes à faire de la figeture à n'importe quoi. Mais nous avons toujours été provoqués. Alors il faudrait que le gouvernement de son côté puisse demander à celui qui nous fait la guerre d'arrêter et de faire la paix pour que nous puissions quitter les maquis et que nos populations battent à leurs occupations quotidiennes sans aucune inquiétude que peut-être elles seront menacées quelque part.
Oui, mais
c'est ce que nous avons demandé au gouvernement.
Oui, mais quand vous dites que c'est le gouvernement qui doit remettre la paix comme garantie que vous demandez au gouvernement, concrètement, c'est quoi que vous demandez au gouvernement pour que les autres militaires qui nous suivent comprennent? Oui.
Si vous suivez bien les déclarations du CNDP, le CNDP n'a jamais reconnu qu'il puisse exister un autre mouvement politico-militaire à l'est du pays. Il est le seul maître d'intérêt selon lui. Et si vous suivez aussi les déclarations du gouvernement, le gouvernement aussi reconnaît comme mouvement politico-militaire le CNDP, mais c'est juste aujourd'hui que le gouvernement vient d'accepter que d'autres mouvements politico-militaires opéraient dans le pays sans qu'il ne le sache. Et voilà donc, le CNDP faisait la guerre au gouvernement et non à d'autres groupes armés. Et pourtant, nous avons toujours subi des menaces de son côté. C'est-à-dire, il fallait que le gouvernement accepte qu'avec le CNDP, ils sont d'accord de cesser les hostilités afin de nous permettre, et nous, parce que nous n'opposons aucune condition pour rejoindre donc tout processus engagé allant dans le sens de la paix. Donc, le gouvernement a la responsabilité à la fois de mettre fin aux hostilités et aussi de rassurer à nos populations que voilà, il évolue dans la paix et vient d'accepter de cesser le fait et en finir avec la question Kunda parce que ça gêne quand même dans la région.
Ok. Et François, professeur François Ayomba Guira, vous êtes député national du RCD, élu de Massissi. Vous participez à cette conférence. Évidemment, vous ne représentez pas le CNDP dans cette émission. Nous attendons toujours qu'un représentant du CNDP nous rejoigne dans cette émission. Mais alors, qu'est-ce que vous... comment vous réagissez, professeur François Ayomba Guira, aux garanties que demandent les Maïmaï au gouvernement?
Je pense que les garanties que demandent les Maïmaï au gouvernement, je ne sais pas, parce que les Maïmaï, s'ils reconnaissent le gouvernement, d'abord, ils doivent se mettre, en ordre avec le gouvernement, donc reconnaître le gouvernement, donc être au système de brassage. Bon, ils ont posé leurs problèmes, ils ont dit qu'ils doivent partir en même temps et au même moment que les CNDP.
Oui.
Et tout le monde a été d'accord, toutes les forces armées se sont engagées à partir au brassage en même temps et au même moment que les CNDP. Ils précisent même de mieux encore, de même dans le même camp de brassage ou de transition. C'est un point qui est très positif. Donc on ne peut pas demander au gouvernement de garantir autre chose parce que dès qu'on se libère contre le gouvernement, pour demander, exiger du gouvernement quelque chose, il faut d'abord qu'on soit dans le système du gouvernement. Donc les Maïmaï, on leur demande d'aller à brassage et ça a été accepté. Ils vont partir, le système de brassage doit commencer en même temps pour tous les groupes armés. Parce que chaque groupe dit, je suis ici parce qu'il y a tel groupe. Je suis là parce qu'il y a tel groupe.
Oui.
Je suis ici pour défendre l'intérêt de cette population. Et bien, pour mieux défendre l'intérêt de cette population, il faut que toutes les forces armées puissent se mettre ensemble, aller au passage et former une armée républicaine capable de défendre les intérêts de tout le monde.
Professeur, oui. Est-ce que vous voulez dire que les Maïmaï, eux, n'obéissent pas au gouvernement?
Bon, ils n'obéissent pas au gouvernement. Ils ne sont pas. Mais le gouvernement n'a qu'une seule armée nationale, FRDC. Les Maïmaï sont armés. Ils ne sont pas du gouvernement. Donc, ils n'obéissent pas au gouvernement. Ils vont obéir au gouvernement à partir du moment où ils vont aller au brassage.
Allez-y, parce que vous disiez qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas le droit d'exiger des garanties. Hein?
Justement, parce que je sais, par exemple, moi, quand je dis que je suis élu de Massissi, je connais des points où le gouvernement n'arrive pas, où il y a le Maïmaï, il y a le Paréco, il y a le CNDP.
Oui.
Le gouvernement se limite à un certain moment. Le gouvernement ne peut pas envoyer quelqu'un là où il y a le Maïmaï, là où il y a le Paréco, là où il y a le CNDP. Donc, ce sont des forces armées qui ne sont pas au niveau du gouvernement. Le gouvernement n'a pas ne peut pas avoir des milices ou des forces armées qui ne sont pas des chars de feu. Donc, à partir du moment où ils se mettent en règle avec les institutions du gouvernement, qui est en train de procéder à former une armée républicaine pour défendre tous les intérêts de tous les peuples, c'est à ce moment-là qu'ils vont dire que nous appartenons au gouvernement. À partir du moment où ils seront au niveau des brassages. Mais maintenant, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont du gouvernement, non.
Oui, est-ce que, professeur, vous pensez que le CNDP va facilement se soumettre à ce projet d'acte d'engagement du gouvernement?
Bon, à mon avis, les CNDP, en fait, sont quand même des citoyens comme les autres. On connaît avec certains d'entre eux. Par exemple, je peux citer un certain colonel Kabondi. Je te reconnais comme un fils parce que j'ai étudié avec son père à l'école primaire. Mais à ce moment-là, en tant que colonel, je pense qu'il sera intérêt, il aura intérêt à être colonel d'une armée nationale plutôt que d'une rébellion cantonnée dans une petite région. Il y en a de même pour d'autres officiers que nous connaissons. Donc c'est mieux d'avoir quand même appartenu à une armée nationale plutôt que appartenir à une armée de brousse, une armée rebelle. Je pense qu'ils ont aussi intérêt à faire partie de l'armée nationale, être considérés comme des officiers, des généraux de notre armée nationale. Je pense qu'ils seront quand même, il y a des signes qu'ils vont accepter qu'ils souhaitent aussi la paix. Parce que même dans leur discours, il n'y a aucun aucun groupe armé qui a dit qu'il ne voudrait pas la paix. Il n'y a aucun groupe armé qui a dit qu'il ne voudrait pas. Quand même la constitution. Après, quand même, les choses qu'ils ont reconnu la constitution.
Oui,
la constitution ne reconnaît qu'une seule armée nationale.
Oui.
À partir du moment où on reconnaît la constitution, on connaît toutes les conséquences.
Oui, donc pour vous, professeur, on vous a compris, hein, vous dites que vous êtes optimiste, vous pensez que, comme les Maï-Maï, on a suivi, eux, ils ont donné comme seule condition que le gouvernement puisse garantir qu'il mettra fin aux activités du CNDP, et donc stabiliser la région. Est-ce que, François Elika, vous croyez aussi, comme le professeur et député national, Ayomba Guira François, que ces groupes armés sont sincères et qui vont effectivement signer le projet d'acte d'engagement que leur propose le gouvernement?
Merci beaucoup. Disons que il n'est pas question ici de pouvoir apprécier la teneur des discours prononcés ou tenus par les différents groupes armés en fonction d'une question de moralité, sincérité ou pas sincérité. Dans tous les cas, la question, si on ramène ça au niveau de la sincérité, c'est comme si les jeux politiques, l'initiative militaire ne dépend que de ceux qui sont engagés sur les théâtres des opérations militaires. Non, il y a une grande complexité de la question qui fait intervenir plusieurs acteurs. Il y a à un certain niveau ceux qui peuvent bien vouloir, c'est vrai, s'engager dans le processus, mais qui vont se sentir tout de suite obligés de ne pas donner le maximum de ce qu'on attendait d'eux parce qu'il y a des pressions qui les désorientent. Mais disons pour revenir
à un groupe, par exemple,
mais différents groupes, aussi bien le Maï-Maï que le CNDP, parce que la question, prenons la question de Maï-Maï aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte de la crise d'État où on est en face d'une autorité étatique qui est déficitaire, qui n'arrive pas à couvrir l'ensemble de la territorialité, et donc il se développe d'autres groupes qui sont en fait des groupes d'action populaire qui revendiquent la possibilité de couvrir, en développant des mécanismes d'autodéfense, de couvrir l'espace là où l'État ne peut pas le faire. Ça veut donc dire que si nous nous mettons dans une telle optique, le Maï-Maï ont bel et bien raison de revendiquer, d'insister que le gouvernement offre des garanties. Alors, ici, quelles sont ces garanties? Si j'ai bien compris l'argumentaire...
Mais des garanties dirigées vers le CNDP. Il faut que le gouvernement arrive à freiner l'action du CNDP.
Tout à fait, parce que le CNDP lui-même estime qu'il y a deux groupes armés qui insécurisent les différentes minorités, par exemple. Il va de soi que ces différents groupes armés, dans l'argumentaire du CNDP disparaissent. Mmh. Mais les Maï-Maï aussi estiment que le CNDP est né à la suite d'un processus qui insécurise aussi les autres. Il est donc important qu'on puisse comprendre que les Maï-Maï, en tout cas c'est leur argumentaire aussi, existent en réaction à un autre groupe. Alors, dès l'instant où vous êtes dans une situation d'une très forte polarisation, il va de soi que les Maï-Maï, dans leur argumentaire, vont se dire « Nous ne pouvons nous impliquer dans le processus de paix que si ce pourquoi nous aussi nous avons pris des armes, à titre de réaction, s'engage au même moment que nous à mettre fin à la militarisation. » Donc, si nous restons dans la logique de savoir qui a raison, qui a tort, ça va poser de problème. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que ça doit être un processus concomitant.
Oui.
De sorte que les suspicions soient prises en compte et les susceptibilités aussi prises en compte, et qu'on arrive finalement à mettre en place un processus de démilitarisation qui implique à la fois les CNDP et les Maï-Maï. Mais disons que la question de la sincérité ici est une question très difficile, parce que l'approche elle-même de la conférence a semblé donner l'impression que nous traitons d'une question qui est locale, donc qui n'a pas d'interférence, qui ne peut pas intervenir plusieurs interférences qui, au fait, ne sont pas contrôlables ou ne peuvent pas faire l'objet de discussions en public au niveau de la conférence. Et ce qui est important ici, c'est de savoir que, pour moi, c'est une étape. Si cette étape est capitalisée en termes d'engagement, il va falloir que le gouvernement s'implique alors dans une autre dynamique plus large de la gestion de toutes ces ramifications, de toutes ces interférences extérieures, parce que vous allez vous rendre compte ici, lorsque le CNDP lui-même fait la guerre sur terrain, bon, mais on connaît la géographie du pays, comment il se ravitaille en armes. Ça signifie que s'il y a des pays qui leur fournissent des armes, ces pays ont des revendications, ont des ambitions. S'il y a des pays qui sont favorables à leur démarche, même sans leur fournir des armes, c'est que ces pays ont une certaine grille de lecture qui interfère sur la dynamique de la construction du destin sur le plan national. Alors comment arriver à concilier tout cela? Ce ne sont pas ces groupes. C'est plutôt la démarche que le gouvernement devra construire par la suite pour prendre en compte toutes ces problématiques qui vont au-delà de la conférence.
Donc pour vous, professeur, excusez-moi de vous appeler professeur, en fait, vous le serez, parce que c'est le processus normal, vous êtes encore assistant à l'IPACIC, mais alors, puisque vous vous dites qu'on ne doit pas se limiter à l'engagement, à la signature par les groupes armés de ce projet d'acte d'engagement, donc il faut considérer, si je vous comprends bien, l'implication des pays voisins, peut-être, qui seraient des sources de ravitaillement des groupes armés.
Mais bien sûr, non seulement les pays voisins. Vous avez voyez sur Internet les différents rapports qui décrivent les réseaux de ravitaillement d'armes à l'Est. Vous avez plusieurs réseaux qui relèvent même de multinationales qui, en fait, insécurise l'Est pour arriver à construire une économie de prédation. Ça veut donc dire qu'il y a un enjeu sur terrain. C'est toutes ces ressources qui sont la proie des différentes multinationales. Et ces multinationales ont certainement un cahier de charge qui ne peut pas faire l'objet de diverses analyses au niveau de la conférence à Goma. Ça veut donc dire que le gouvernement devra, à travers les conclusions qui vont être mises en place, aura la possibilité de construire une perspective de négociations, de gestion, mais en tout cas, ce sont des transactions.
Il y a tout un suivi qui doit être
fait. Tout un suivi qui va être mis en place, sinon ça n'aura servi à rien que les gens se soient retrouvés à Goma, parce que la question telle qu'on la présente sur le plan du discours officiel, c'est de donner l'impression que ce sont des gens qui se sont battus, ce sont des peuples qui ne se sont pas aimés, alors il suffit de se retrouver ensemble et qu'ils s'aiment et l'optimisme naît. Je crois qu'il faut formuler un certain nombre de réserves au regard de la complexité de la question.
Rapport de la clôture de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement à Goma. Peut-on espérer un retour rapide de la paix dans les deux kivus après cette conférence? C'est pour tout de suite dans la deuxième partie de cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Peut-on espérer un retour rapide de la paix dans les deux kivus après cette conférence, malgré son report, tel que le report de sa clôture, tel que les choses se passent, le coordonnateur national de la société civile craint un blocage dans la marche vers la paix et le développement. Lopez Kibiswa attribue ce risque de blocage aux revendications du CNDP de Laurent Kunda. On l'écoute au téléphone de Kevin Couté.
Les revendications que le CNDP avance ne sont pas du tout de nature à faire avancer la nation, parce que ce sont des revendications qui sont liées au positionnement des personnes du CNDP.
C'est-à-dire quoi, positionnement des personnes?
Ben, lorsque le CNDP exige que ces colonels deviennent généraux, ces généraux de brigade deviennent des généraux-majors, des lieutenants deviennent majors ou capitaines, ainsi de suite, et qu'il y ait des postes ministériels qui puissent, que ceux qui ont été dans le complot d'assassinat de Laurent Désiré Kabila soient carrément amnistiés, que vous voyez que ce genre de revendications ne sont pas de nature à montrer qu'il y a volonté de faire la paix du côté du CNDP, mais plutôt une volonté de faire chanter toute la nation et que le développement ne puisse pas commencer. Je ne peux pas dire qu'on ne peut pas espérer. Moi, je suis un combattant de la liberté et nous devons toujours espérer, mais beaucoup plus dans nos capacités à faire changer les choses, à faire avancer les choses.
Voilà, Didier Bitaki, d'abord, vous qui êtes porte-parole de Maïmaï, vous êtes dans les tractations avec le comité des sages. Peut-être vous pouvez nous dire, parce qu'il n'y a pas encore de décision officielle. En fait, finalement, c'est à quand la clôture officielle de cette conférence?
S'il vous plaît, je voudrais d'abord souligner deux choses. Le Maïmaï est une force de réaction par rapport à une provocation. C'est ce que je voudrais corriger d'ailleurs de la part de l'honorable député que je respecte beaucoup. Donc, c'est-à-dire, si le Maïmaï ont pris les armes, c'est pas parce qu'ils voulaient seulement s'insurger contre qui que ce soit, mais encore contre le pouvoir. Nous avons soutenu l'AFDL jusqu'à la portée au pouvoir à Kinshasa. Tout le monde est témoin, nous avons laissé nos frères, Ofro et d'autres sont partis dans le gouvernement de l'AFDL, dirigé par Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est une phrase. La deuxième, nous, nous avons lutté pour l'intégrité de ce territoire congolais, oui. Sur lequel d'ailleurs, sur lequel tout le monde s'exprime aujourd'hui. On ne compte pas le nombre de morts tombés au front parce que nous voudrions protéger les nôtres.
Oui, mais comment vous pouvez expliquer, Didier Bitaki, mais comment vous pouvez expliquer, parce que là vous justifiez un peu l'existence de votre groupe, les Mai Mai, mais comment vous pouvez expliquer qu'après les élections, on a un gouvernement légal et on a une armée nationale et que vous soyez en marge de cette armée, comment pouvez-vous expliquer ça?
S'il vous plaît, je voudrais vous faire comprendre une chose. Nous avons dit, si les Mai Mai ont pris les armes, c'était juste répondre à une agression. L'État a toujours été absent sur le territoire. Donc, l'État n'a de pouvoir que dans les grandes villes, il faut les reconnaître, bien qu'il y ait un gouvernement élu, c'est pas un gouvernement, pour les institutions qu'ils ont. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils ont l'autorité sur le reste du territoire, si ce n'est que dans les grandes villes où ils opèrent?
Voilà.
Alors, c'est là la question qu'on doit se poser.
Voilà,
s'il vous plaît, écoutez.
Oui, allez-y.
Alors, à ce niveau-là, le Mai Mai étant agressé par le CNDP, et je vous rappelle que le CNDP, c'est l'ANC, l'ANC suppose le RCD Goma. L'armée rwandaise n'avait jamais quitté le territoire congolais, donc il se transforme en métamorphose. Oui, c'est notre version, notre compréhension, parce que nous, nous sommes sur le terrain, vous êtes à Kinshasa, vous ne vivez pas ce qui se passe sur le terrain, laissez-nous vous informer.
Okay.
Jamais le gouvernement congolais n'avait découvert que sur le terrain, il y avait des groupes armés étrangers ou alors des troupes d'un pays étranger autre que la RDC.
Bon, tout cela est connu.
Pour défendre notre territoire.
Didier Bitaki.
Oui.
Tout cela est déjà est connu. Revenons maintenant à la conférence sur la paix à laquelle vous participez. Parce que le repos... Oui, mais la clôture était prévue aujourd'hui. Didier Bitaki. J'espère qu'on se comprend. Oui, la clôture devait intervenir aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit finalement? À quand cette clôture?
Nous, nous n'avons pas refusé que la clôture ne puisse avoir lieu. Moi-même, en ce moment que je vous parle, nous venons d'adopter même les documents qui a été proposé pour remettre la paix dans la région. Mais ce document consiste à quoi? Ce document consiste à rassurer toutes les parties sur leur implication. D'abord dans la gestion de la chose publique, leur implication dans le retour de la paix, donc à cesser totalement les faits sur le terrain. Mais malheureusement, pendant que nous sommes en train de conclure l'accord avec tous les partis engagés dans le combat,
oui.
Il y a le CNDP qui attaque nos positions, qui attaque les FRDC, qui veut massacrer la population.
Ça, c'est à vérifier aussi.
Nous disons ceci. Il faudra vérifier, vous trouverez, parce qu'il y a 41 morts qui décédent injustement dans les villages de Kachouga. Ça, c'est un témoignage de vos troupes de la Monique qui était sur le terrain.
Oui.
Mais je suis en train de vous dire ceci. Pour le moment, nous nous sommes fermement et totalement engagés pour faire la paix dans ce pays.
Okay.
Et en plus de cela, nous avons montré notre bonne foi. Nous l'avons témoigné devant d'abord les organisateurs de la conférence. Nous étions représentés d'une façon là marginale parce que nos gens n'étaient pas véritablement représentés. Nous avons accepté pour indiquer notre bonne foi d'aller vers la paix.
Oui, mais Didier Bitaki, on ne va pas monopoliser la parole parce qu'il y a d'autres.
Je suis en train de lever une équivoque. S'il vous plaît, laissez-moi parler.
Oui, brièvement.
Dans ce cas, nous disons, nous avons souscrit à la paix et tout le monde doit faire foi, doit montrer sa bonne volonté afin d'aider le peuple congolais qui a tant souffert des affaires de guerre, tantôt des agressions et consorts. Nous ne voulons plus ça, nous voulons aller vers la paix, qu'on puisse cultiver, qu'on puisse manger, qu'on puisse faire des petits commerces, afin que peut-être les conditions de vie de nos compatriotes puissent être améliorées à travers notre engagement. Mais cela doit faire l'objet de la bonne foi de toutes les parties impliquées dans ces conflits.
Oui. Est-ce que vous voulez dire, hein, on va peut-être terminer par là sur ce point-là, est-ce que vous voulez dire que vous êtes de bonne foi, vous êtes engagé, vous avez dit que vous avez même adopté le projet d'acte d'engagement, est-ce que vous rejoignez, qu'il y soit, l'OPEST de la société civile qui craint qu'il y ait un blocage à la suite des prises de position du CNDP?
Certainement, parce que le CNDP ne fait pas montre de bonne foi, de bonne volonté. Vous savez, quand on est en train de négocier, on doit savoir pourquoi on négocie,
okay.
Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit adopter, et où est-ce que ça va aboutir. Et le CNDP, je pense, en envoyant une délégation à la conférence, avait déjà compris que nécessairement tous ces points étaient déjà examinés de leur côté.
Oui.
Sinon, on fait une chose ici et le contraire sur terre.
C'est
que nous, nous sommes en train de stigmatiser.
Merci, Didier Bitakis. Alors, honorable monsieur le député national, François Ayomba Dira, du RCD, finalement, vous avez montré que vous étiez optimiste quant à l'issue de cette conférence, mais quand on suit le porte-parole de Mai Mai du Nord Kivu, on a l'impression qu'en fait, c'est le CNDP de Laurent Kunda qui risque de bloquer finalement l'issue de toutes les résolutions attendues de cette conférence.
Oui, monsieur le journaliste, nous sommes venus dans la conférence, c'est pour chercher la paix. Donc, c'est surtout ça qui doit d'abord primer. Mais nous savons que le CNDP a commis beaucoup de grâces, même pendant la conférence, au lieu de parler de 41 personnes de Kachouga, mais il y a eu 48 au niveau de 40 de Kariva et 5 à Rubaya, plus de 60 personnes dans cette région pendant la conférence. Bon, ça, sont des faits que nous constatons. Maintenant, nous attendons aussi le CNDP. Nous attendons la signature, donc, des engagements. Ce n'est pas le fait de signer que ça pourrait suffire. Il y a aussi une commission technique de suivi. Cette commission technique devra poursuivre tout le processus. Donc, il faut d'abord cette bonne volonté de pouvoir signer l'acte d'engagement. Et je veux dire peut-être question des grades et tout ça. Ce n'est pas maintenant qu'on va parler de question des grades, de question des... Bon, il n'y a pas de poste à dissoudre, non. D'amnistie, il y a des règles quand même internationales, il y a ce qui est connu. On ne peut jamais, même le CNDP ne peut pas demander qu'on amnistie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, non. Ça, ils savent, ils ont aussi des juristes. Donc ça, ce sont des faits qu'il faut d'abord d'office connaître. Mais l'essentiel, c'est qu'on signe d'abord l'acte d'engagement,
oui.
Et puis la commission technique va poursuivre.
Oui, mais professeur.
Oui, ce qui s'est dit de Maïma a dit non, il n'est pas. Bon, il voulait peut-être me contredire. Tant qu'il y a l'autorité qui est établie, si vous avez même déjà à défendre le pays, il faut venir vers cette autorité et dire voilà, il y a tel problème, je vais aider pour défendre de cette façon.
Oui.
Donc, les Maïmans, s'ils veulent défendre le pays, justement, ils vont dire voilà, notre armée, il faut renforcer notre armée de cette façon. Une des façons, c'est d'amener ces éléments Maïmans
qui vont se
poser comme affaire. Oui.
Oui, mais professeur, lorsque le CNDP, par exemple, de Laurent Kunda, je répète encore, hein, vous ne représentez pas le CNDP, on n'a pas pu avoir quelqu'un de disponible du côté du CNDP de Laurent Kunda. Mais lorsque ils disent qu'il faut qu'il y ait des négociations directes avec le gouvernement, est-ce que vous croyez que ces négociations, le gouvernement pourra accepter ces négociations directes, comme le demande le CNDP?
C'est-à-dire que quand on vit en négociation, on vit avec un cahier de charges, avec tout ce qu'on sait soi-même que ce n'est pas possible. Ça c'est sûr, parfois, pour gagner, peut-être si je n'obtiens pas ça, j'obtiens tel point. Ça c'est normal, le CNDP qui ne peut pas négocier avec le gouvernement. Ce qui ne peut pas négocier avec le gouvernement. Donc, ici, on est au niveau de la conférence, on demande aux troupes armées, au CNDP, de pouvoir s'engager à libérer le pays, à poursuivre donc, le domaine, donc les processus de brassage. Donc, c'est pour aller au brassage, qu'est-ce qu'il vous faut, CNDP? Qu'est-ce qu'il vous faut, Maïmaï? Qu'est-ce qu'il vous faut, Paris? Donc, quelles sont les exigences pour arriver à entrer dans le processus de former une armée nationale? Il y a des points qui sont nécessairement impossibles, qu'on doit leur faire comprendre, c'est pourquoi il y a des tractations à ce moment-ci. Et je suis sûr qu'ils parviendront à revenir à la raison.
Oui.
C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vais conseiller à mes amis, à nos frères du CNDP, à nos frères Maïmar. Ce n'est pas bien de rester toujours dans la brousse pour dire qu'on défend ce par quelle cause, on doit défendre la nation.
Oui.
Et la nation se défend au niveau du FARDC.
Oui, mais professeur, on a reçu beaucoup de réactions hein, des auditeurs et internautes, beaucoup qui commencent un peu à devenir pessimistes, même sceptiques quant à l'issue même de cette conférence. Il y en a par exemple, je cite Cyprien en Mbandaka, qui pense que la conférence finalement c'est une distraction pour le peuple congolais. D'autres encore, tels que David Banda Kaina au Nord Kivu, pour lui le gouvernement s'il ne prend pas garde, cette conférence risque d'empirer la situation d'insécurité dans les deux Kivu. Est-ce que vous pensez que la population qui suit, ceux qui vous suivent par exemple, ils doivent espérer, quant à l'issue de cette conférence, qu'elle va effectivement remettre la paix, restaurer la paix dans les deux Kivu?
Bon, je peux vous garantir que nous, députés du Nord Kivu, nous sommes avec la base même. Nous sommes même avec les déplacés. Bon, nous savons que quand il est arrivé au niveau de la conférence, on a fait un effort pour essayer de faire comprendre à tout le monde. Donc, les plaies ont été ouvertes. Et c'est sûr que si on laissait ces plaies comme ça ouvertes, ça serait arrivé vraiment une catacombe. Mais actuellement, il faut songer à penser ces plaies, ce qu'on est en train de faire. Et je sais que ça ne sera pas une distraction, ce n'est pas une distraction comme ça. Il faut avoir confiance d'abord soi-même, dès qu'on vient à la conférence. Si nous sommes à la conférence, c'est ça. Nous sommes avec notre base. Oui. Chaque fois, ils nous posent des questions. Nous leur donnons des avancements. Nous venons aussi de la réunion avec le comité de sages.
Merci, professeur.
Nous avons donné des clients des cahiers de charges.
Oui.
Nous l'avons apprécié. Pour nous, les députés, si on parle à ce cahier de charges, je ne peux pas maintenant vous dire le contenu parce que ce n'est pas encore.
Oui, tout à fait.
Je ne suis pas habilité à les donner.
Oui.
Mais nous, les députés, nous avons été satisfaits de ces projets, cet engagement qui sera signé, et si c'est signé, c'est que réellement nous aurons la paix.
Et
je ne peux pas, moi-même, je ne peux pas quand même le bosser qui est en bas de croyer. Moi, je suis fortement concerné parce que dans le match ici,
on vous a compris. Merci, professeur. Merci, professeur. On vous a compris. On vous a compris, professeur. François Elika, faut-y croire finalement à l'issue de cette conférence et au retour de la paix dans les deux Kivu?
Bon, écoutez, la paix est un impératif qui relève de l'histoire des États, qui relève de l'histoire des nations. Il n'y a aucun peuple qui peut refuser la paix. Mais évidemment, la paix, ce n'est pas un vœu pieux. Il est vrai que, à travers la conférence, le gouvernement s'est lui-même tendu un piège. Ce qu'on ne peut pas penser, je vous ai dit que la question est tellement complexe qu'il ne faut pas croire que le seul cadre pour la résoudre, c'est la conférence.
Donc, elle ne suffit pas,
parce qu'il y a des questions beaucoup plus sensibles qui ne peuvent pas faire l'objet des discussions publiques.
Donc, vous pensez qu'il faut, un peu comme le demande le CNDP, des négociations directes?
Le gouvernement va forcément être obligé d'avoir des négociations directes. Peut-être ouverte, peut-être publique, mais peut-être encore secrète pour des raisons de susceptibilité ou encore pour des raisons de sa propre crédibilité.
Parce qu'on apprend quand même qu'il y a des tractations.
Tout à fait, il y a des tractations. La conférence elle-même est une tractation, oui. Une transaction aussi. Mais il faut savoir que c'est un processus. Parce que dès l'instant où le gouvernement a donné la possibilité aux différentes personnalités de déballer l'histoire, ça signifie qu'il y a deux points qui ne peuvent pas faire l'objet d'un déballage public. Pour des raisons liées au secret d'État, pour des raisons liées aux susceptibilités diplomatiques ou d'ordre stratégique. Il est donc important à ce niveau-là que le gouvernement... Bon, aujourd'hui, le gouvernement a réalisé que c'était la seule voie qui lui restait, il faut absolument ne pas avoir honte d'engager des négociations, parce que c'est au cours de ces négociations que des questions les plus sensibles, comme les cahiers de charges d'autres groupes, plus secret qui influe sur la dynamique de la politique,
devait
être abordé. Donc, nous risquons, mais il faudra que l'on fasse très attention ici, parce qu'on pense que cette conférence devra résoudre des questions, par exemple, l'amnistie, il faut mettre en place une commission, bon, l'amnistie va... C'est vrai, il y a, d'une part, la question liée à la procéduralisation en termes de droit, mais il y a aussi une question liée à la gestion des susceptibilités politiques. Nous avons vécu le cas, par exemple, avec Mulele qui a été, il y a eu un texte, une loi qui avait été signée, mais Mulele n'avait pas été accepté par les militaires qui ont eu du mal à pouvoir être en face de leur ancien bourreau.
En tout temps,
il y a une autre question qui est plus importante aussi, c'est que il va falloir que les CNDP évitent de construire un argumentaire qui donne l'impression qu'on on est en face d'une banalisation de l'histoire où on donnerait l'impression que les victimes, ce sont des dégâts collatéraux, on peut s'en passer, la justice ne fera rien. Donc il y a d'un côté et d'un autre, c'est des prédispositions à prendre, mais en tout cas, le gouvernement ne peut plus aujourd'hui échapper à la nécessité des négociations avec Kunda parce qu'il y a des problématiques plus sensibles qu'il faut savoir prendre en charge.
Merci François Elika. Nous allons prendre quelques réactions des auditeurs parce que vous savez, nous ne pouvons pas les prendre toutes. Et on les prend avec vous, Kéline Couté, bonsoir.
Bonsoir Jean-Claude, Mantekele de Kitombiro au Nord-Kivu dit ceci, que le politicien congolais cesse de distraire le peuple avec des prolongations vaines, qu'il passe à l'application des décisions déjà prises. Sébastien Boutemouni de Mbandaka, l'Équateur, affirme ce qui suit. Nous n'espérons pas encore un retour rapide de la paix et de la sécurité dans les deux Kivus, parce que les conférenciers n'ont pas une volonté commune pour que la paix et la sécurité soient rétablies dans les deux Kivus. Pour Papi de Bounia dans la province orientale, cette conférence va accoucher d'une souris, car le CNDP réclame une amnistie, chose qui est impossible. Enfin, pour Eric Kassongo, depuis Cape Town en Afrique du Sud, le report de cette conférence prouve à fortiori qu'on ne peut pas espérer au retour d'une paix imminente dans les deux Kivus.
Merci beaucoup, Kéline Couté. On va reprendre avec vous, professeur François Ayombagira. Vous êtes aussi député national du RCD. Il y a, par exemple, cet auditeur, Papi de Bounia, qui, lui, pense que cette conférence, alors que vous y croyez, vous l'avez dit tout à l'heure, que la population doit y croire, mais lui pense que cette conférence va accoucher d'une souris parce que Laurent Kunda réclame notamment une amnistie, et ce qui est impossible de, selon cet auditeur. Qu'est-ce que vous répondez, François Ayombagira, professeur et député national?
Bon, Laurent Kunda, je sais de féliciter dans sa déclaration, il en a parlé, mais je dis que ce n'est pas tout ce qu'on déclare qu'on obtient nécessairement pendant les négociations. Là, il faut que la population se comprenne. Ce n'est pas parce que Laurent a le CNDP a exigé ceci, a exigé cela, qu'il doit seulement avoir cela. Non, on ne peut pas arriver à ça.
Ça y est,
on doit le faire arriver à les tractations consistent nécessairement à cela.
Merci beaucoup. Ça y est, bref.
Ils devront le comprendre. Et puis, ce que je veux dire aussi, et on ne peut pas dire que la seule voie qui restait au gouvernement, c'était la conférence. Non. La conférence. Si la paix et le développement, c'est une nécessité qu'on devait faire à tout moment, ce n'est pas nécessaire parce que c'est la seule voie qui
est pour le
gouvernement pour quand même mettre de l'ordre.
Merci, professeur. Vous avez répondu et je vais vous demander évidemment d'être un peu bref parce qu'on tend vers la fin de cette émission. Mais, et pour vous, Didier Bitaki, parce que vous êtes porte-parole de Maïma et les Maïma, ils ne semblent pas approuver que Laurent Kunda, par exemple, soit amnistié.
Écoutez, je vais répondre dans un sens un peu plus clair. Laurent Kunda est repoussé de plusieurs faits. Écoutez, vous avez donné du temps à ceux qui parlaient. Laissez-moi essayer de clarifier cette question.
On
va réclamer l'amnistie parce qu'on a pris l'arme pour se faire amnistier. Je pense qu'il est vrai que le gouvernement congolais peut-être n'est plus composé de juristes. Il y a ce qu'on appelle fait de guerre et fait insurrectionnel. Ça fait un côté. Le second côté, il y a ce qu'on appelle crime de guerre et crime contre l'humanité. Ce sont deux infractions différentes. Le fait de guerre et fait insurrectionnel relève de la compétence du gouvernement national. On peut décider, soit on accorde une amnistie. Mais on ne doit pas se mettre au-dessus des institutions, des instruments internationaux qui traitent de la matière. Donc, s'il s'avérait que les enquêtes qui pourraient être menées contre les crimes qui ont été commis à RDC, on doit se rendre compte que si Laurent Kunda est incriminé, vous ne devez pas ravir l'autorité ou le pouvoir à la compétence des institutions internationales de traiter sur la question. Si Laurent Kunda est incriminé, il doit être déféré devant la justice, et ça c'est vrai.
Peut-être vous aussi, hein.
Peut-être derrière l'arme.
Peut-être vous aussi.
On ne doit pas. Oui, c'est pas grave, la justice pourra le prouver, mais moi je suis en train de le spécifier. Et si du moins.
Vous devez conclure, s'il vous plaît.
On veut l'orienter vers le gouvernement pour imposer à un faible gouvernement qui fallait négocier.
Merci.
Nous, de notre côté, nous n'avons jamais été d'accord.
Merci beaucoup, Didier Bitaki. L'autre réaction, là, c'est pour vous, François Elika, c'est vous qui allez répondre. C'est avec Manze Kele de
Kitombiro Nord Kivu, lui, il pense que les politiciens congolais, qu'ils arrêtent de distraire le peuple avec des prolongations vaines, qu'ils passent à l'application des décisions déjà arrêtées. En quelques secondes, François Elika.
Visiblement, il n'y a pas encore de décision arrêtée qui pourrait avoir une grande visibilité ou un grand impact sur le terrain pour modifier les relations, les rapports de force et arriver à construire une paix durable. Donc, nous sommes en face d'une conférence qui est en train encore de balbutier parce que les questions de fond, les questions les plus sensibles n'ont pas encore fait l'objet d'un traitement aussi adéquat que pratique. Et un autre aspect le plus important, c'est que quand on connaît en fait la disposition dans laquelle la configuration morale qui prévaut à Goma, on s'est dit qu'il y a beaucoup de gens qui pensent beaucoup plus que ça va permettre un repositionnement politique plutôt que de croire à une paix réelle. Donc ça, c'est autant de questions et je crois que les auditeurs ont raison de pouvoir s'inquiéter.
Merci beaucoup François Elika, c'est la fin de cette émission. Nadine Foula était à la réalisation. Kelly Nkouté à la préparation de cette émission. Sylvain Baougueré à la mise en onde. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Radio Okapi. Thank you.